Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, vous avez probablement pris connaissance des chiffres du jour, du nombre de cas du jour et de la ventilation, là, possiblement. Donc, les chiffres d'aujourd'hui nous démontre encore une fois que la situation est inquiétante au Québec, dans plusieurs régions du Québec, notamment celles, évidemment, qui sont passées en orange hier soir, mais dans un ensemble de régions, là, quelle que soit la couleur, on voit une tendance à la hausse, une nette tendance à la hausse, entre autres avec ce nombre de cas qui augmente de jour en jour. Alors, vous vous rappelez, vendredi dernier, pour prévenir justement des éclosions dans les bars et les restaurants, vendredi dernier, j'ai annoncé J'ai lancé finalement une vaste opération policière dans tout le Québec pour la durée de la fin de semaine, donc une vaste opération policière à laquelle ont participé une trentaine de corps de police au Québec, une opération qui visait à vérifier que sont suivies les règles de la santé publique, aussi les conditions liées au permis d'alcool, puisqu'on parle d'établissements licenciés. Et cette opération, qui était nommée OSCAR, donc Opération systématique comportement à risque, comme je l'avais dit, avait pour objectif, j'en avais parlé aussi, de visiter au moins 1000 établissements durant la fin de semaine partout au Québec. Et donc, l'opération a été un franc succès. Je suis heureuse de dire ce matin que ça a été un franc succès parce que cet objectif a été largement dépassé. On a effectué dans tout le Québec 2206 visites d'établissements durant le week-end grâce au travail de tous ces corps de police qui ont été à l'œuvre partout dans les régions. On s'est concentré, comme je l'avais dit, dans les régions qui étaient en préalerte, les régions qui étaient jaunes, dont certaines sont entre-temps passées au orange hier soir, ou en fait du moins aujourd'hui depuis minuit et une. Alors donc, une très vaste opération qui a été un succès, comme je l'ai dit, 2206 visites. Et dans la semaine dernière, ce sont près de 1500 avertissements et avis verbaux qui ont été donnés par nos corps de police à divers établissements et plus de 90 constats d'infraction, rapports ou constats d'infraction selon, qui ont été remis pour divers types d'infractions aux règles de santé publique. Donc, entre autres, évidemment, le non-port du couvre-visage, le non-respect de la distanciation. Il y a aussi le fait de consommer de l'alcool après les heures qui sont permises, de consommer de l'alcool debout. Il y a aussi des infractions de surcapacité, donc à la capacité d'accueil qui est actuellement restreinte à 50 %, donc des infractions liées à une surcapacité, au fait d'être plus de 10 personnes par table et aussi au fait de ne pas tenir le registre de clients qui est maintenant obligatoire partout pour les établissements. Alors, je veux remercier nos policiers pour leur grand professionnalisme et leur grande proactivité durant toute la fin de semaine, là, 2206 visites partout. Vous vous imaginez que ça a pris des gens pour faire ces visites-là et faire justement les avertissements, les rappels, la sensibilisation. Puis ça, c'est important parce qu'en complément du nombre de constats, j'en parle souvent, il y a toute cette notion de prévention, de sensibilisation, de visibilité qui fait aussi son œuvre parce que, je donne toujours le même exemple, si tu es dans un bar, tu te conformes plus ou moins, tu vois arriver des policiers, même si tu ne reçois pas de contravention, le fait de voir le policier va faire en sorte que tu te conformes aux règles et le même objectif est atteint, c'est-à-dire que les gens se conforment et qu'on limite la propagation du virus. Je veux aussi remercier toutes les personnes dans les établissements, justement, qui ont été visités, à la fois les propriétaires, les exploitants et aussi les clients. Parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que dans la quasi-totalité des endroits, ça a très bien collaboré et j'ai même entendu des regroupements puis des propriétaires d'endroits dire publiquement, se réjouir finalement ou en tout cas bien accueillir cette opération-là parce qu'on entend des fois certains témoignages de gens qui travaillent dans ces établissements-là et qui disent, entre guillemets, mais là, être tanné de jouer à la police parce que, bon, des fois, il y a des situations. Alors, c'était en quelque sorte du renfort à nos exploitants d'établissements que cette opération qui a été bien accueillie, justement, par les propriétaires. Alors, un succès, cette opération. On va poursuivre cette collaboration-là. On a fait ce blitz-là en fin de semaine, mais au jour le jour, il y a plusieurs visites de cette nature-là aussi qui se font. Les avertissements, les rappels et tout ça, ça se fait toujours en permanence, 7 jours sur 7. donc un succès en fin de semaine. Je veux remercier aussi, bien sûr, tous les citoyens et les clients qui, eux aussi, dans la grande majorité des cas, se conformaient aux règles de santé publique. On le sait, c'est une minorité de récalcitrants encore qui compromet les efforts qui sont faits par une majorité. Alors, je veux absolument remercier les Québécois qui respectent les règles et aussi être toujours aussi clair sur le fait que ceux qui ne respectent pas les règles s'exposent à des sanctions. On le voit, plus de 90 constats et rapports d'infraction qui ont été donnés. Et quand on parle là, d'avertissement, donc dans un premier temps, les policiers font des rappels, font des avertissements. Alors, les gens ont la possibilité de se conformer et, à défaut, reçoivent des constats, des rapports d'infraction. Donc, il y a quand même des gens qui, obstinément, ne respectent pas les règles et ils sont sanctionnés. Alors, je pense que c'est important pour le respect de la majorité qui fait son effort. On ne peut pas laisser une minorité compromettre ses efforts collectif qu'on fait depuis maintenant plus de 6 mois. Maintenant, je veux m'adresser, je suis aussi ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, puis je veux m'adresser à mon monde de Québec, parce que la région de Québec, dans sa quasi-totalité, à l'exception de 3 MRC, est passée au orange hier soir. Et puis moi, je suis très préoccupée de voir qu'on est passé au orange hier soir et de voir la hausse des cas dans la région de Québec. Donc, je veux m'adresser aux gens de Québec. Vous le voyez, il y a une montée de la contagion à Québec et c'est très important, là je vais insister là-dessus d'emblée, c'est important qu'on puisse garder notre capacité, toutes nos capacités dans le réseau de la santé, notre capacité à prendre soin des gens, notre capacité à offrir des traitements aux patients, aux gens qui en ont besoin, parce que quand on doit prendre des employés pour s'occuper de la COVID, s'occuper des tests et tout ça, évidemment, ça a pour effet que pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc, c'est important de garder notre capacité dans le réseau à Québec. Et c'est important de se protéger les uns les autres, finalement, pour maintenir cette capacité, puis éviter de rendre la situation pire qu'elle est en ce moment. On a été pendant un certain temps en préalerte, en jaune, et l'idée, c'était de faire en sorte qu'on ne passe pas au orange, ou en tout cas de tous se forcer à faire en sorte qu'on passe pas au orange. Là, on est passé au orange hier soir. Alors là, je veux faire appel aux gens. Il faut qu'on fasse un effort particulier dans les prochains jours. Il faut tous qu'on y mette du nôtre. Il faut, oui, qu'on limite en partie notre vie sociale pour quelque temps. Ça veut dire de mettre une partie de notre vie sociale sur pause. C'est vrai, c'est tannant. Je le sais que c'est pas facile. On a tous encore en mémoire le souvenir un peu trop frais de la première vague, du confinement et tout ça. On est heureux d'être passé à une autre étape, d'avoir pu recommencer plusieurs de nos activités. On est heureux que nos enfants soient retournés à l'école. On est heureux de pouvoir refréquenter un petit peu nos amis et notre entourage. Mais là, en ce moment, on est en zone orange. La prochaine étape, c'est le rouge. Puis je pense qu'il n'y a personne qui veut passer en phase rouge avec encore plus de restrictions. On a le pouvoir en ce moment là, de limiter ça au orange et de retourner au jaune idéalement. Et pour y arriver, c'est simple. Il faut limiter nos contacts au minimum. Alors, les parties, les soupers de famille, les barbecues, les rassemblements en tout genre, pour des raisons autres là, que professionnelles ou en tout cas pour des raisons finalement qui ne sont pas strictement nécessaires, bien, on les évite, s'il vous plaît, pour un bout de temps. Il faut qu'on limite nos contacts sociaux au minimum pour un bout de temps. C'est ça qui va nous permettre de retourner dans le jaune et de stabiliser la situation de la contagion à Québec. C'est pas compliqué, là, on a le pouvoir. Le pouvoir, il est entre vos mains, il est entre les miennes. J'habite à Québec, moi aussi, j'habite dans l'agglomération. L'agglomération est dans le orange en ce moment. Alors, on a tous ce pouvoir-là en ce moment. Je vous demande de le saisir, le pouvoir, de faire tous votre effort, chacun de votre côté, pour qu'on puisse stabiliser la situation, puis retourner dans le jaune, puis éventuellement dans le vert. Mon collègue de la santé l'a très bien dit hier soir, la hausse de la contagion, c'est pas une fatalité. C'est simplement un signal que le pouvoir est entre vos mains de stabiliser la situation et de faire en sorte qu'elle s'améliore. Prenons exemple sur le Bas-Saint-Laurent. Vous vous souvenez, dans les derniers jours, on a beaucoup parlé du Bas-Saint-Laurent. Il y a eu des éclosions. Il y avait eu un party dans un cégep. Il y a eu des éclosions dans des bars. Et voyez, eux, avec la hausse de cas, se sont mobilisés. Et la situation épidémiologique s'est stabilisée, de sorte qu'ils sont encore dans le jaune dans le Bas-Saint-Laurent et ils n'ont pas basculé dans le orange. Donc, prenons exemple sur eux. Soyons vigilants, soyons prudents. Et on va avoir toutes les chances de stabiliser la situation. Là, je parle pour Québec, mais ça vaut pour toutes les régions aussi. Personne veut augmenter, personne veut passer au prochain stade d'alerte. Et évidemment, on veut absolument éviter le rouge, parce que dans le rouge, ça va venir avec encore plus de contraintes qui vont être encore plus désagréables à endurer que ce qu'on doit faire en ce moment. Alors, lâchez pas tout le monde. Un gros merci. Je le sais que c'est pas facile, je le sais qu'on est tanné, mais il faut faire cet effort-là pour éviter quelque chose qui serait encore plus tannant puis encore plus dérangeant que ce qu'on vit en ce moment. Donc, je termine en remerciant encore une fois nos policiers pour l'opération de la fin de semaine et en remerciant tous les citoyens qui sont très, 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 très nombreux à se conformer et à suivre les règles et à le faire patiemment un petit peu partout au Québec. Donc, merci tout le monde.
Est-ce que vous avez une allocution en anglais, madame?
Oui, un petit bout.
OK. Donc, la vice-première ministre Guilbeault, donc, qui dit que son opération policière de la fin de semaine a été un franc succès. Mm-hmm. Honnêtement, ça aurait été étonnant qu'elle nous dise le contraire.
Ça aurait été étonnant, mais il y a quand même 2206 visites qui ont été effectuées. On parlait de 1000 établissements. J'en ai vécu une visite, moi, en fin de semaine. J'étais dans un endroit licencié, puis tout ça. Puis ça s'est bien passé. Les policiers sont arrivés, ont fait le tour. Tout était beau. Ils sont repartis. Mais ça fait en sorte qu'il y a quand même eu des gens qui ont eu des constats d'infraction.
Bien, c'est ce qu'elle nous a dit. 90 ouais. constats et rapports d'infraction, mm-hmm. les deux. 1500 avertissements pour non-port du masque, non-respect de la distanciation, des consommations après les heures permises.
Ou debout encore.
Voilà, c'est mm-hmm. ça, prendre un verre debout, dépasser le chiffre de 10 quand tu es assis à une table, ça, c'est pas permis. Non. Ne pas avoir tenu le registre également. Donc, beaucoup d'avertissements. Dans le fond, ce qu'elle dit, elle, là, c'est notre objectif, c'était pas de distribuer contraventions, c'était d'envoyer un message de vigilance.
Mm-hmm. De faire respecter les règles, puis ça va se poursuivre.
C'est ça. Là, oui, c'est ce qu'elle dit. Alors là, ça, c'est une bonne affaire, parce qu'ils nous avaient pas mal prévenus, mettons, que ça s'en venait. Mm-hmm. Alors, il n'y avait pas trop d'effet de surprise. Les questions maintenant.
Vous savez, moi, les directeurs de santé publique, on suit la situation d'heure en heure et je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Là. On s'est parlé hier, je vous parlais qu'on voyait les signes avant-coureur d'une deuxième vague. Je dois vous dire qu'avec les chiffres de la journée, je suis encore très, très, très préoccupé par la situation à tel point que je considère que maintenant, on est peut-être dans la deuxième vague. On est dans la deuxième vague, dans son début. Donc, je pense que la situation, elle est sérieuse. Elle est sérieuse partout au Québec. Elle est sérieuse, particulièrement dans les jaunes oranges, mais je tiens à vous dire que les jaunes peuvent facilement passer à l'orange et les vertes au jaune ou à l'orange si on ne met pas en place les mesures. Il y a du virus partout au Québec actuellement et je pense que c'est très important. Cette deuxième vague, on pourrait la transformer en une plus petite vague que ce qu'on a connu antérieurement, mais si on ne fait pas les efforts, elle peut être encore plus grosse que la première. Donc, je tiens à vous dire que la collaboration de tous est importante. Et les messages que notre vice-première ministre vient de nous dire en lien avec réduction des choses sociales, c'est peut-être ce qui va nous permettre de passer à travers et de ne pas aller vers un reconfinement total. Notre liberté, elle a été très coûteuse à gagner, très coûteuse en termes économiques, en termes de souffrance humaine, en termes de désensibilisation. Alors, j'invite véritablement la population à écouter les consignes, aussi que mes directeurs de santé publique vont leur dire. Je voudrais, comme deuxième message, vous dire que c'est très important de collaborer avec la santé publique si vous avez des symptômes et que vous avez été contacté pour identifier vos contacts. C'est majeur comme opération. On appelle ça le search and contain, c'est-à-dire chercher et contenir la situation si on ne veut pas que la deuxième vague vienne nous nuire à tous. Ça pourrait vous nuire, même si vous n'êtes pas en COVID-19, mais si vous avez besoin d'une chirurgie cardiaque ou d'une autre opération, il ne faudrait pas que notre système de soins commence à délester de façon intensive, particulièrement dans les régions qui ont des faibles capacités en termes de ressources humaines. Donc, je trouve ça très important que vous collaboriez avec la santé publique. Maintenant, pour la question du dépistage, il faut comprendre qu'on fait beaucoup de tests de dépistage, donc on détecte peut-être plus de cas même qu'à la première période, mais les gens ont l'impression que le test de dépistage, c'est ce qui va les protéger. Si vous n'avez pas de symptômes, si vous n'avez pas été en contact avec un cas, si la santé publique ne vous a pas appelé ou si l'école ne vous a pas demandé spécifiquement d'aller chercher un dépistage, je pense que ce n'est pas le temps. L'affaire à faire, c'est de respecter les consignes comme telles, et c'est la chose la plus importante. Donc, ce sont mes trois messages. La première, c'est qu'on est dans une deuxième vague. Le deuxième, c'est qu'il faut collaborer avec la santé publique. Et le troisième, le dépistage est réservé pour ceux qui ont des symptômes, si on est un cas, si on est un contact, si on est recommandé par la santé publique. Mais ne pensez surtout pas qu'un test de dépistage négatif vous protège ou qui veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Merci.
Nous en sommes maintenant à la période de questions. Nous commençons avec Olivier Bossé, Le Soleil.
Bonjour. Madame Guilbeault, vous disiez, c'est, on le répète, une minorité de récalcitrants. 1500, ça me paraît quand même un peu plus qu'une minorité.
Oui, 1500 avertissements ou avis verbaux. Alors, oui, bien, c'est sûr que si on prend 1500 sur une population d'un peu plus de 8 millions, ça demeure une minorité. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Puis oui, donc, à la question, là, quand on se demandait est-ce que c'est vraiment là le problème dans les bars, est-ce que c'est pertinent de faire cette opération-là, je pense que les chiffres le confirment. Il y a des choses qui se passent dans les établissements, il y a des infractions ou, en tout cas, disons, des intentions d'infraction, parce que quand on parle d'avis verbaux, souvent, comme je le disais, la personne va se conformer. Des fois, il y a peut-être des oublis. Des fois, bon, il y a peut-être de la distraction. Il y a un mélange de toutes sortes de choses là-dedans, là. Mais ça démontre, hors de tout doute, la pertinence de ces interventions-là. Et on va continuer d'intervenir de manière proactive dans les établissements licenciés parce que il y a quand même là un potentiel d'infraction qui n'est pas à négliger et qu'on souhaite contrôler.
Est-ce que vous en avez parlé tantôt de la collaboration des tenanciers de bar, des restaurateurs? Est-ce que, d'après vous, ils en ont fait assez justement pour que, même en zone orange, on a décidé de ne pas fermer ces établissements-là?
Oui, bien, la grande majorité, là aussi, se conforme dans le sens où eux souhaitent rester ouverts. Tu sais, les établissements, ils souhaitent rester ouverts, là. Ils sont encore traumatisés, puis on les comprend, de la première vague, du moment où ils ont dû fermer leurs portes. Alors, eux souhaitent rester ouverts. Ce qu'on entend, puis que j'ai lu même dans certains médias, je le disais tout à l'heure, il y en a qui trouvent que c'est lourd un petit peu de jouer à la police. Des fois, ça peut être lourd de faire appliquer les consignes, bon, dépendant du type de circonstances. Des fois, l'heure avance, la consommation d'alcool et tout ça. Alors, eux ont vu d'un bon œil cette opération-là. Il y a cette notion-là aussi de soutien puis de renfort aux établissements. Mais moi, pour ce que j'en sais, puis dans nos nombreuses discussions avec les corps de police et tout ça, la grande majorité collabore. Il y a quelques établissements qui sont problématiques. On ne se le cachera pas, il y a des établissements qui sont problématiques. Il y a certains établissements, très peu, là, je veux le préciser, très peu, mais il y a un petit nombre d'établissements qui ont fait l'objet en fin de semaine de signalements, soit à la santé publique ou à la régie de l'alcool, des courses et des jeux, parce que justement, il y avait des problématiques suffisamment majeures pour qu'un simple avis ou une simple contravention ne suffise pas en ce qui, par rapport à l'interprétation que faisaient nos corps policiers dans leurs interventions dans ces lieux-là. Donc oui, il y en a des endroits problématiques, mais dans la grande majorité des cas, il y a une bonne collaboration.
Louis Lacroix, COGECO.
Madame la vice-première ministre, M. Arruda. Ma question, c'est pour M. Arruda. Vous avez sans doute vu les conclusions ou le manque de conclusions de l'étude de l'INSPQ sur le port du masque. Qu'est-ce que vous faites de ces résultats-là? En fait, ce qu'on nous dit en réalité, c'est qu'on n'est pas capable de conclure que le port du couvre-visage a un effet. Alors, est-ce que c'est pas un peu tiré dans votre propre filet, ça?
Écoutez, il faut comprendre que l'Institut national de santé publique doit sortir des recommandations ou des avis ou carrément, tout simplement, un état de la situation sur la base de ce qu'on appelle de la rigueur méthodologique. Prouver l'efficacité du couvre-visage dans le contexte d'une pandémie, dans des contextes culturels très différents d'un pays à l'autre, avec les limites que les études observationnelles font, c'est normal qu'on arrive à une conclusion ou dire qu'on ne peut pas démontrer l'efficacité ni la démontrer. C'est une façon de s'exprimer en termes de science qui est très habituelle. Mais nous, on pense qu'avec, en regardant les expériences, à partir des éléments observatoires, même si on peut dire qu'on ne peut pas avoir de certitude scientifique avec une étude contrôlée, c'est-à-dire un pays où on met des masques, un pays où on n'en met pas, exactement la même exposition, nous, on considère qu'il y a suffisamment de données, d'ailleurs, l'OMS le fait aussi, pour considérer que le couvre-visage pourrait avoir un effet. Quel est-il? Ça peut dépendre de la qualité du couvre-visage, mais en plus, biologiquement parlant, le fait qu'on diminue la quantité de gouttelettes qui va comme telle, il y a sûrement un effet, mais dont l'ampleur et la quantité restent encore à déterminer et comme telle. Et peut-être qu'on ne sera jamais capable de le prouver parce que ce genre d'études-là serait éthiquement non adéquate.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les anti-masques vont pouvoir se servir de ce manque de conclusion à leur cause, finalement, à l'avantage de leur cause, parce que j'ai bien l'impression que...
Tout à fait. Les anti-masques vont l'utiliser, mais vous comprendrez que nous ne devons pas non plus faire dire à la science ce qu'elle ne peut pas dire. Fait que, quelque part, moi, je considère que, de la même façon que quand il y a des effets pour un vaccin ou un autre, il faut être en mesure d'être transparent. Les gens sont intelligents. Les gens peuvent comprendre qu'on n'a pas été capable de le prouver scientifiquement parlant. Là, comment les gens vont l'utiliser, ça va dépendre, bien entendu, mais moi, je vous recommande fortement de le porter parce que, dans le contexte actuel, certains pays semblent avoir démontré une baisse d'incidence avec ça. Mais comme je vous le dis encore, je ne pense même pas qu'on sera capable, d'ici un an, d'avoir une étude contrôlée qui va être en mesure de le faire. Ça ne serait pas éthique d'exposer des gens, par exemple, avec l'information qu'on a, à dire « portez pas de masque, puis on va voir si vous allez l'attraper » pour comparer avec un groupe qui a porté le masque.
Patrick Bellerose, Journal de Québec.
Oui, bonjour à tous les deux. Une première question pour Dr. Arruda. Le fait pour vous de déclarer qu'aujourd'hui, qu'on est dans une deuxième vague, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie nécessairement qu'on en a pour plusieurs semaines avant de réussir à aplatir la courbe, comme vous avez souvent dit au printemps?
Effectivement, vous voyez que quand on voit la courbe, si vous me permettez, là, la première courbe, elle a été vraiment très à pic, comme si elle est redescendue. On a eu des vaguettes, hein, une vaguette. Là, actuellement, j'espérais que c'était une vaguette aussi, une deuxième, mais on voit que la courbe est en train de monter comme ça. Donc, si elle monte comme ça, elle ne viendra pas piquer comme ça. Donc, elle va monter, il faut l'aplatir. Essayons de l'aplatir beaucoup pour qu'elle puisse, elle va sûrement durer un bout de temps, redescendre comme telle. Mais je vous dis, là, la pente, elle n'est pas comme au printemps, mais elle est comme ça. Puis moi, je pense que ça pourrait être le début d'une deuxième vague. Et si actuellement, on ne fait pas ça, ce qu'on risque de faire, c'est de monter comme ça. Et ça, là, je vous le dis, ça ne sera pas drôle. Et ça peut arriver, là, si on veut passer un Noël le plus calmement possible, là, il faut que les gens collaborent. C'est majeur.
Bon, mais écoute, il est encourageant. Si on veut passer un beau Noël, on est mieux de se prendre en main. Luc Lavoie, bonjour.
Salut, Bernard.
Bon, OK, vas-y.
La grande nouvelle a émané de ce point de presse-là, dans lequel il y avait peu de nouvelles, finalement, c'est le docteur Arruda, notre directeur de la santé publique, qui nous informe qu'on est dans la deuxième vague. C'est la première fois qu'il dit ça comme ça.
Oui. Remarque que le scientifique en chef lui a poussé dans le dos hier. Il a dit la même chose hier. Puis d'ailleurs, moi, je tiens de bonnes sources que... À Québec, quand ils ont entendu le scientifique en chef dire ça, ils sont tombés des nues un petit peu, mais ils n'étaient pas tellement contents.
Ben là, écoute, ils n'étaient pas tellement contents qu'on nous dise la vérité, puis on va être tous contents, non? Mais
c'est parce que là, Luc, sur la deuxième vague, on avait un avis scientifique, entre guillemets, du scientifique en chef, puis on avait la santé publique qui nous disait non, pas encore. Fait que là, Arruda, dans le fond, rétablit les deux versions pour n'en faire qu'une seule. Et par ailleurs, tu as vu qu'il a aussi défendu, si on peut dire, l'étude de l'INSPQ là, sur le masque et le couvre-visage. Il a essayé de dire que, dans le fond, c'était un peu leur travail de faire ça, tata. Parce que la dernière affaire que tu veux, c'est d'avoir une chicane entre l'Institut national de santé publique puis la Direction nationale de la santé publique. Fait qu'il n'y a pas même le choix que de gérer ça comme ça. Mais je suis sûr qu'intérieurement, il doit être en beau fusil, là.
Oui, mais il est membre du conseil d'administration, il devait être au courant que ça allait sortir cette étude-là. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je serais en beau fusil si j'étais lui, mais il faut aussi qu'il s'attribue une part de culpabilité. On peut pas revenir constamment là-dessus, mais au mois de mars, c'est le même docteur Arruda qui avait dit non, les masques, ça va nous donner une fausse sécurité, patati patata. Alors qu'on sait aujourd'hui, Bernard, qu'il s'agissait de ce qu'on appelle un mensonge d'État. Un mensonge d'État, ça signifie quoi? Il n'y en avait pas de masque. Ce qu'il avait dit aux gens des portées, il n'y en avait même pas pour les hôpitaux et les CHSLD. Alors, ils ont essayé de contourner l'affaire en disant « Non, c'est pas bien important. » Puis, à un moment donné, ils se sont bien rendus compte que c'est très important. Et je trouve, en tout cas, ce rapport là, de l'Institut national de la santé publique était vraiment de trop. Vraiment de trop. On a-tu besoin de ça?
Non.
Et ce que dit Arruda, j'adhère complètement. Il faudrait qu'on puisse transformer la deuxième vague en plus petite vague, parce que tu sais comme moi, Bernard, que l'histoire nous a montré, en particulier la grippe espagnole et d'autres épidémies qui ont eu lieu, que très souvent, la deuxième vague est pire que la première.
Hein? Oui.
Alors là, on est supposé être mieux préparé. On va voir nos institutions, comment elles vont réagir. On est rendu proche de 600 cas par jour. C'est énorme.
Oui.
C'est énorme. Puis quand tu penses à l'échelle canadienne, on est autour de 800-900 par jour.
Écoute, j'ai regardé les chiffres, mon Luc. Là. Vendredi passé, c'était 297 cas. On est monté à 427 samedi, 462 dimanche, puis là, on est à 586. On a pratiquement doublé en quatre jours, là.
Donc, on est reparti vraiment là, sur ce qu'on appelle la croissance exponentielle. Pas tout à fait, mais ça va vite. Je pense qu'il faut... On n'a pas le choix, là. Arrêtons de se raconter des histoires entre nous, puis ah là là, puis vous savez, puis vous avez entendu l'étude. Faisons ce qu'on nous demande, là.
Ouais.
Je vois pas de meilleure solution, Bernard. Et soyons sérieux, là. Si ça continue à augmenter, là, puis qu'on se retrouve à la fin de la semaine à 1000 cas par jour, là, on va être dans de beaux draps, puis on va finir enfermé chez nous comme au mois d'avril.
Ouais, puis on veut pas ça. On veut pas ça, Luc. Hein?
On veut pas ça.
On veut pas ça, puis ça dépend de nous autres pour beaucoup, là. Je veux dire...
Moi, je trouve qu'ils ont fait une belle opération policière en passant.
Ouais, mais c'était ma prochaine question. T'as trouvé ça utile, toi?
Ben oui, c'est utile. Ouais. Ben oui, c'est utile.
Bon.
Les gens, c'est notre journaliste tout à l'heure qui le racontait. Elle en a vu à l'œuvre. Ils arrivent, ils sont bien calmes, ils font le tour. Ils disent aux gens, tu devrais t'éloigner un peu, ou fais attention, les directives sont pas respectées ici, ou et ça a un effet
dissuasif.
Dissuasif important, comme quand d'habitude, tu sais que des fois la Sûreté du Québec fait ça pour des longs week-ends, ils installent des voitures avec pas de chauffeur le long de la route pour que les gens ralentissent parce que c'est dissuasif. Alors c'est la même chose. Moi je trouve qu'ils ont fait une belle opération, ça a été bien mené. A dit que ça va continuer au jour le jour, c'est une bonne chose.
Souhaitons-le, oui.
Parce que, je veux dire, garder les bars ouverts à l'heure actuelle, c'est dur à justifier. C'est dur à expliquer pas à justifier. Je comprends l'économique, je comprends l'aspect du propriétaire de bar puis des employés, je comprends ça, là.
Oui.
Mais
l'autre argument, Luc, c'est de dire, si on ferme les bars, on va avoir plus de parties privées, puis c'est là que la contagion se produit présentement, fait que, bon... Tu sais, si on garde les bars ouverts, je te donne l'argument, là. Je te dis pas que
je
suis d'accord.
Comprends.
Je te donne les arguments. L'argument, c'est si tu gardes les bars ouverts, bon, ben, au moins, tu peux exercer une certaine surveillance. Les policiers peuvent venir faire un petit tour. Alors que si le party est chez vous, comme on sait, c'est plus compliqué.
Mais je constate, Bernard, nous, toi et moi, on aime le petit vino. Alors, je m'en vais à SAQ. Mm. Au début de la pandémie, les gens respectaient le 2 mètres. Il n'y avait pas de masque. Là, ils ont des masques. Mais ils respectent plus le 2 mètres. Vraiment, vraiment.
Ah oui, t'as remarqué ça en fin de semaine, toi?
Nettement. Alors, je m'en désole. Mm. Mais au moins, ils ont des masques, là. Mais ils font la file comme avant la pandémie.
Ah oui? Ah non, pas ma SAQ, moi. À ma SAQ, il y a des petits X, là. Puis, m'a dit, on a intérêt à se tenir sur le petit X. Puis,
ils continuent de contrôler le nombre d'usagers à l'intérieur des murs. Ça, c'est clair.
Non, mais la file d'attente,
c'est bien fait.
La
file d'attente, on est collé un sur l'autre.
Ah oui? Ah non, mais ça n'a pas lieu.
En tout cas, tu sais, appel à la prudence, vraiment. Ouais, ouais. Là, on n'a pas envie de se retrouver à Noël avec ça, là.
Ça t'a pas tenté de sortir du rang puis d'haranguer les clients?
J'ai parlé à deux d'entre eux.
Là? Moi, je faisais une blague. Toi, t'es sérieux? Tu leur as dit de se déplacer un petit peu, de prendre le distance avec toi?
Ben, j'étais plus gentil que ça. J'ai dit, on dirait qu'on respecte plus le 2 mètres. Hein? et c'était un couple. Puis le gars a répondu, ben là, on a un masque. Puis là, ben, j'ai dit, il paraît qu'il faut faire les deux. Puis là, ben, la conversation s'est terminée là-dessus. C'était pas agressif, rien.
Non.
Mais c'est ça, là. Les gens, sans trop y penser, vraiment... On revient au naturel, puis oups, on est collés les uns sur les autres. Dans le fil d'attente, pas à l'intérieur.
D'accord. On se reparle un peu plus tard, Luc.
Avec plaisir.
Après la pause, je vais parler avec le docteur Kobinger, parce qu'il faisait partie d'un groupe de travail sur les vaccins. Et il a décidé de démissionner parce qu'il trouve que le groupe de travail n'est pas suffisamment transparent, qui vous fait des cachettes, notamment sur les conflits d'intérêts, entre certains membres du groupe de travail et des pharmaceutiques. À ma connaissance, c'est la première entrevue que Gary Kobinger donne à la radio depuis qu'il a démissionné. Il en a donné une au Devoir, mais pour ce qui est des médias électroniques, je pense que c'est la première, donc restez à l'écoute.